23h ici à Paris, 1h en temps universel. Vous êtes bien à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
C'est un accord historique entre l'île Maurice et le Royaume-Uni. Londres reconnaît officiellement la souveraineté pleine et entière de Maurice sur l'archipel des Chagos. Un traité signé ce jeudi met fin à ce feuilleton vieux de 56 ans. On fait le point en début de journal. Le tireur du musée juif de Washington inculpé pour assassinat. L'homme a tué deux employés de l'ambassade israélienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Lors de son arrestation, il a scandé le slogan « Free Palestine ». Dans ce journal également, la Cour suprême américaine bloque l'ouverture d'une école religieuse financée sur fonds publics. Et puis en France, la liste actualisée des métiers en tension a été publiée. Cela concerne les métiers où les recruteurs n'arrivent pas à recruter. Et cette nouvelle liste ouvre la voie à une régularisation des travailleurs étrangers qui exerçaient déjà dans ces activités illégalement. Vous avez les titres, bienvenue. C'est une grande victoire pour l'île Maurice. Les mots du premier ministre mauricien Navin Ramgoolam. Londres reconnaît officiellement la souveraineté pleine et entière de Maurice sur l'archipel des Chagos. Un traité a été signé virtuellement ce jeudi entre Port-Louis et Londres pour mettre fin à un contentieux territorial vieux de 56 ans. Ce traité marque la fin d'une profonde injustice, celle des Chagossiens expulsés de leurs terres dans les années 60 et 70 pour faire place à la base militaire américaine sur Diego Garcia. Alors à l'annonce de l'accord, les Chagossiens ont exprimé un soulagement longtemps attendu. Abdullah Erali.
Dans le quartier de Pointe-aux-Sables, où vit une grande partie de la communauté chagossienne à Maurice, l'annonce du traité a déclenché des scènes de liesse. 50 ans d'exil prennent fin pour ces familles expulsées de leur terre natale. Les Chagossiens ont chanté, dansé et craqué des pétards, portés par l'émotion, mais surtout un sentiment de justice enfin rendu. Mais une question reste en suspens. Quand et comment ces familles pourront-elles retourner sur l'archipel ? Aucun calendrier n'a été annoncé. Hier, Maurice et le Royaume-Uni ont signé un traité virtuel qui met fin à un contentieux territorial vieux de 56 ans. L'article 1 du traité stipule que Maurice est souveraine sur l'archipel des Chagos dans son intégralité, y compris Diego Garcia. Le premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, a évoqué une reconnaissance sans ambiguïté ni compromis. L'accord a été approuvé par les États-Unis qui conservent leur base militaire sur Diego Garcia grâce à un bail renouvelé de 99 ans. En contrepartie, le Royaume-Uni s'engage à verser à Maurice près de 200 millions d'euros par an pendant 28 ans. Abdullah Erali, Port-Louis. RFI.
Direction le Proche-Orient où les raids israéliens continuent dans la bande de Gaza. La défense civile palestinienne fait état de 52 morts ce jeudi. L'armée israélienne a émis un avis d'évacuation pour 14 quartiers du nord de l'enclave, y compris dans le camp de réfugiés de Jabalia. Seul espoir pour les Palestiniens, cette aide humanitaire qui a repris très lentement. Près de 90 camions ont pu rentrer dans l'enclave menacée par la famine. Une première depuis 2 mois et demi suite au blocage imposé par Israël. Mais pour les Nations Unies, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Avant le déclenchement de la guerre, près de 500 camions d'aide humanitaire entraient chaque jour à Gaza. Benjamin Netanyahou ordonne de renforcer la sécurité de toutes les représentations diplomatiques d'Israël à travers le monde. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 employés de l'ambassade israélienne ont été tués devant le musée juif de la capitale américaine. Le tireur inculpé pour assassinat a scandé le slogan « Free Palestine » lors de son arrestation. Les capitales du monde entier ont dénoncé une attaque antisémite. Précision de notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin.
Plusieurs heures après l'attaque perpétrée par un homme d'une trentaine d'années et qui a été arrêté, le musée, une ancienne synagogue en briques rouges, était encore inaccessible et les rues alentours étaient barrées par des bandes de plastique jaune posées par la police, qu'elles soient locales ou par le FBI, la police fédérale qui est en charge de l'enquête, puisque le caractère haineux a été retenu. En dehors des forces de l'ordre, on croisait surtout des journalistes, mais aussi quelques membres de la communauté juive, venus présenter leur respect au couple assassiné et qui devaient se fiancer la semaine prochaine. Les personnes présentes font évidemment part de leur émotion, de leur colère un peu, mais surtout du sentiment de peur. Elles disent que c'est l'illustration de la montée de l'antisémitisme à travers le monde et aussi aux États-Unis. Elles citent souvent la fusillade de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, il y a quelques années. Mais les attaques à caractère antisémite sont beaucoup plus rares à Washington, qui passait plutôt jusque-là pour être un lieu sûr pour les Juifs. Ce n'est désormais plus le cas, selon ces personnes, et c'est ce qui les inquiète. Au-delà du musée, la vie suit son cours dans le centre de la capitale, un peu comme d'habitude, non loin de là. les touristes continuaient par exemple à affluer pour visiter le Capitole sans manifester de crainte particulière. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et dans la foulée, le chef de la diplomatie israélienne a accusé des pays européens d'incitation à la haine. Accusation qualifiée d'outrancière par la France qui a condamné un acte odieux de barbarie antisémite. L'université américaine d'Harvard interdit d'accueillir des étudiants étrangers. Nouvelle offensive du gouvernement Trump qui reproche à la prestigieuse université de promouvoir des idées de gauche jugées trop progressistes. Dans une lettre adressée à l'établissement, la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a écrit que la certification du programme Student and Exchange Visitor de l'université Harvard est révoquée avec l'effet immédiat. Le porte-parole de l'université a dénoncé une décision illégale. D'après son site internet, l'université du Nord-Est des États-Unis accueille cette année près de 6700 étudiants internationaux, soit près de 27% des étudiants. Les États-Unis, toujours, c'est une décision importante pour le principe de séparation de l'Église et de l'État. La Cour suprême bloque l'ouverture d'une école religieuse financée sur fonds publics. Les précisions de Carlotta Morteo.
Une école publique financée par le ministère de l'Éducation, mais dirigée et administrée par une organisation religieuse, en l'occurrence l'Église catholique, ce projet d'école dans l'État conservateur de l'Oklahoma aurait été une première aux États-Unis où les écoles confessionnelles sont exclusivement des écoles privées. La Cour suprême a confirmé l'interdiction de cet établissement par la justice de l'État de l'Oklahoma qui avait invoqué le premier amendement de la Constitution, c'est-à-dire le principe de neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Alors même que ces dernières années, plusieurs décisions de la Cour, à majorité conservatrice, avaient été relativement favorables aux institutions religieuses, à l'image de l'administration Trump qui soutient ouvertement ce projet d'école. Mais la séparation entre Église et État a prévalu. À un fil, toutefois, les juges étaient divisés, 4 voix pour et 4 voix contre. Ce n'est donc pas un avis complet qui fera jurisprudence, mais une brève ordonnance. La question pourrait donc revenir devant les juges dans une prochaine affaire.
En République démocratique du Congo, le Sénat vient de voter à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. 96 votants, 88 votes pour et 5 votes contre. Le reste sont des bulletins nuls. L'ancien président congolais est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'est du pays. L'entourage de Joseph Kabila dénonce une manœuvre politique du pouvoir en place. Le conflit entre le Rwanda et la RDC au cœur des discussions à Paris ce vendredi. Le président français Emmanuel Macron recevra son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Selon l'Élysée, il s'agit d'un déjeuner de travail sur le conflit des Grands Lacs et la relation bilatérale entre les deux pays. En France, toujours, elle était attendue depuis un an. La liste actualisée des métiers en tension a été publiée ce jeudi au journal officiel par le ministère du Travail. Elle détermine environ 80 professions pour lesquelles les employeurs en France ont du mal à recruter du personnel. Et cette liste ouvre la voie à une régularisation des travailleurs étrangers qui exerçaient déjà ces activités illégalement. À noter que les métiers concernés ne sont donc pas les mêmes selon les territoires. Amélie Beaucourt.
Dans l'hôtellerie et la restauration qui attendaient depuis longtemps cette reconnaissance de secteur en tension, les disparités sont flagrantes selon les régions. En Île-de-France, seuls les cuisiniers bénéficieront de la procédure, alors qu'ailleurs, les serveurs et les plongeurs le pourront également. Un secteur attendait aussi son ajout à la liste avec impatience, celui de l'aide à la personne, à juste titre pour Brice Alzon, le président de la Fédération des entreprises de services à la personne.
C'est un métier extrêmement stratégique et extrêmement clé sur des vraies problématiques de recrutement longue date, parce qu'on a de plus en plus de départs à la retraite, puisque nous sommes sur une population d'aide à domicile et d'aide ménagère, principalement féminine, et qui a en moyenne plus de 50 ans.
Pour déposer son dossier, le travailleur doit prouver qu'il exerce l'un des métiers concernés en fournissant 12 bulletins de salaire sur les 2 dernières années et justifier de 3 ans de séjour sur le sol français. La décision reste en revanche à la discrétion de chaque préfet.
Et puis les taxis français obtiennent une réunion ce samedi au ministère des Transports en présence de François Bayrou. Une rencontre après une 4e journée de mobilisation où ils ont manifesté contre les conditions de transport de patients et contre la concurrence des VTC. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.